Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu? Écoute, tu n'en sauras pas plus.
Et ça le fait d'une L2.
Maintenant.
Titre.
Non mais franchement c'est n'importe quoi là. Franchement t'abuses.
Bah écoute hein.
Non mais à l'aide hein.
Ça va, on a un peu droit à de l'humour quoi.
Ouais, bon, ouais. Sinon les gars, le podcasting ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait?
C'est vrai qu'il y a le podcasting.
Bah je sais pas, vous avez une idée de thématique.
Bah c'est vrai que c'est la fin de l'année, hein. Faut pas trop se relâcher là.
C'est déjà la fin de l'année. Pouah, c'est passé tellement vite. Je me rappelle encore du début d'année.
Eh bah go, bah moi je suis trop chaud, vas-y. Le thème ce sera le début. Comme ça, au moins.
Comment ça? Attends.
T'es chelou, toi?
Bah, ouais, non. Je sais pas, vous avez rien sur le début?
Bah, le début de quoi? Le début de la vie? T'es enfant, tu grandis, tu vas à l'école? Tu veux que je parle de la maternelle? Bah, limite, mais. Moi, je vais pas me limiter à la maternelle. Je parlais de la maternelle, des études sup, tout ce qu'il y a entre les deux.
Bah, en vrai, le début, c'est quoi? C'est la genèse? Donc, la genèse. Genesis? Hop, les débuts du rock progressif?
Ouais, vas-y. Y a autre chose?
Sinon, Rousse Génial m'a proposé un podcast sur comment mieux vivre en société. C'est pas vraiment les débuts, mais c'est un peu les bases de la vie, quoi.
Ouais, bah, fact. Y a autre chose?
Bah, non, hein.
C'est déjà pas mal. Hein.
Ouais, très bon. C'est vrai que vu la thématique.
C'est vrai qu'on aurait pu trouver mieux.
Ouais. Bon, bah, allez, bah, go, hein.
Psartec.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro où l'on va parler de la vie en société. Nous savons tous que la vie en société n'est pas si simple ni trop compliquée, puisqu'il y a des règles, des normes que l'on doit à tout prix respecter. On va se décaler un tout petit peu de cette même société sur quelques pratiques ennuyeuses auxquelles des solutions existent. Au moins 3 personnes sur 5 se perdent en allant quelque part, et ce même en utilisant mal. Le mieux que l'on puisse faire dans ces cas-là, c'est demander le chemin à un passant. Maintenant, comment dois-je aborder cette personne-là? Prenons le cas. Monsieur, j'y vais à telle rue, je me suis perdu. Vous le connaissez? Admettons que monsieur vous dit oui, c'est pas trop loin madame, juste à gauche avant le prochain arrêt du tram. Et pour finir, vous répondez ok, ça fait un peu bizarre, mais heureusement que vous avez eu le renseignement. Pourtant, vous l'auriez obtenu aussi avec les 4 petits mots de politesse. Par exemple, bonjour monsieur, désolé si je vous ai dérangé, j'y vais à cette adresse, vous la connaissez s'il vous plaît, et après vous dites merci monsieur, au revoir. Cependant, dans le cadre d'une rencontre personnelle ou professionnelle, présentez-vous par exemple, bonjour monsieur, bonjour madame, vous dites votre nom, c'est moi que vous devriez rencontrer aujourd'hui dans le cadre de telle réunion. Donc là, la personne c'est à qui il ou elle a affaire. Cet exemple c'est si et seulement si, la personne et vous ne vous êtes jamais rencontrés. Dans le cadre d'une personne que vous avez déjà rencontrée, ça se fait autrement, puisque vous savez un peu sur la personne, vous dites bonjour et dépendamment du degré de la relation, la conversation peut se prolonger. Ça va au boulot? Avec la famille, ça va? Avant de rentrer dans le vif du sujet. Deuxièmement, l'identification d'une personne se fait par le genre, notamment femme et homme. Par contre, lorsque vous vous adressez à quelqu'un, il y a des mœurs qui peuvent faire une totale différence. Le vouvoiement, par exemple, est le plus respectueux pour une nouvelle connaissance. Des inconnus, des supérieurs hiérarchiques, néanmoins que la personne vous permet de le tutoyer, dans ce cas, vous le faites sans problème. Ensuite, on a le tutoiement qui se fait généralement avec ses potes, ses camarades de classe, sa famille, mère, père, enfant, grand-père, sœur, etc. Puisque c'est inscrit plus particulièrement dans le cadre familial. Troisièmement, ne pas suivre des consignes établies dans un milieu. Ça paraît ennuyeux parfois. Laisser son téléphone par exemple sur sonnerie, cependant qu'il est noté, veuillez éteindre vos téléphones, ou ne pas fumer dans cet espace, par contre vous avez votre cigarette en main ou votre cigare en main. Le mieux qu'on puisse faire est de mettre nos téléphones sur vibration en public et en plus de lire les consignes qui sont notées sur les murs. En quatrième, on a la ponctualité. Les retardataires comme moi, s'il vous plaît, si vous serez en retard, prévenez la personne entre 1 heure ou 30 minutes à l'avance et excusez-vous du retard. Pas la peine que l'on se fasse attendre sans faire signe de vie. Par exemple, planifiez son déplacement 1 quart d'heure ou 1 demi-heure à l'avance. Ajoutez ces rendez-vous sur Google Agenda, par exemple, et mettre des rappels. Donc cela puisse vous aider. En quatrième, dérangez son voisin avec ses conversations. Lorsque vous parlez au téléphone, pas la peine que tous les voyageurs aient accès à la conversation. Vous parlez fort, vous criez et parfois même des gestes. Donc, si vous répondez, répondez discrètement. Parlez calmement, sans agitation. Au pire des cas, dites à la personne que vous lui rappellerez. En cinquième, on a le chewing-gum. Pas besoin que j'entende votre bouche mâcher le chewing-gum sans cesse. Je sais que c'est fun lorsque vous mâchez un chewing-gum et que vous faites un bulle, etc. Évitez tout ça et surtout prenez du papier, mettez-le à la poubelle, mais pas sur les chaises et les bains. Comme ça, c'est plus pratique. En sixième, on a le respect d'autrui. Vous utilisez un espace et vous vous apprêtez à le laisser. Sans le moindre souci, vous laissez vos miettes, vos bouteilles de jus et autres. Rassurez-vous que ça ne va rien coûter si vous le faites avant de partir puisque vous l'avez eu propre. Donc, pensez aux autres qui vont vous précéder. La distraction. Quelqu'un vous parle et vous n'écoutez pas. Ce qui vous importe, c'est peut-être vos cheveux, vos ongles, etc. Vous montrez clairement le désintéressement à la personne. Je comprends et je sais tout à fait que ce n'est pas évident de parler à des inconnus où le sujet ne vous intéresse pas. De ce fait, vous dites avec politesse et délicatesse. Désolé monsieur ou madame, j'aurais bien aimé échanger avec vous, mais je ne suis pas en mesure pour cela. Sur ce, soyez respectueux et respectueuses envers autrui pour une vie sociétale plus équitable. Je mets fin à la rubrique, c'était Ruth Jenny avec vous. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro.
Dans les années 70, au milieu des groupes de rock que l'on connaît aujourd'hui tous, Police, Pink Floyd, Queen, et après l'ère des Beatles ou encore des Rolling Stones, il y a un groupe qui va se démarquer de par sa musique, ses textes ou tout simplement les membres qu'il compose. Ce groupe, c'est Genesis. Genesis, c'est un groupe, différent. Avec des musiques allant jusqu'à 20 minutes ou encore des extravagances sur scène, ce groupe, il est vraiment pas à l'image un peu idéalisée qu'on peut avoir du rock, qui est fait par des beaux gosses en blouson de cuir, qui font de la musique dans leur garage pour faire chier leurs parents. Il est temps pour nous de nous plonger dans l'histoire de ce groupe marginal, mais non moins surpuissant, puisque leurs 150 millions d'albums vendus les classent parmi les 30 plus grands groupes de tous les temps, toujours confondus. Avant toute chose, il faut savoir que ce groupe, il a hébergé 3 artistes qui feront ensuite ou parallèlement une immense carrière, à savoir Steve Hackett, Peter Gabriel, ou encore et surtout Phil Collins. Mais pour l'instant, reprenons du début. L'histoire de Genesis, elle débute en 1967 avec Mike Rutherford, Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Philip et Chris Stewart, 5 étudiants à la Charterhouse School qui étaient à la base dans 2 groupes différents mais qui vont finalement fusionner pour donner la base de ce qui deviendra par la suite Genesis. Résultat, c'est sous cette forme que tout va commencer puisque Jonathan King, un ancien élève de l'école, va trouver le nom du groupe mais surtout produire leur premier album, From Genesis to Revelation, qui va devenir un immense succès et propulser les 5 adolescents au rang de superstar mondial. C'est fou! Ce premier album va être un énorme flop et le contrat liant King et le groupe va être résilié. Et petite anecdote, à cause de son nom, ce premier album il va souvent être installé par les disquaires au rayon musique religieuse, ce qui va évidemment pas aider à son succès. Après ce premier échec, le groupe il va enchaîner quelques albums qui recevront un meilleur accueil et également changer un peu de composition jusqu'à 1971 où notre histoire va véritablement commencer à être intéressante. Résultat, on va avoir Peter Gabriel au chant, à la flûte traversière et aux percussions, Phil Collins à la batterie, percussion et au chœur, Tony Banks au clavier et occasionnellement à la guitare acoustique, Mike Rutherford à la basse et à la guitare rythmique et enfin Steve Hackett à la guitare. À partir de là, va commencer à arriver le succès avec des titres tels que I Know What I Like, ou encore Supper's Ready, Social Security took care of this lad, qui sont aujourd'hui encore considérés comme des classiques de la musique progressive. Mais on y reviendra. Ce succès, il est aussi expliqué par la personnalité de Peter Gabriel, qui se différencie clairement de tous les autres, puisque le coco, il se met en costume de fleurs lors des concerts, et il raconte des petits contes avant leurs chansons. Ainsi, on va avoir là l'apparition d'un groupe un peu fantaisiste, qui ne raconte pas des histoires d'amour, mais bien des contes et des petites histoires. Bref, tout ça, ça va en faire un des groupes les plus populaires de la scène britannique des années 70. Mais, en 1975, Peter Gabriel quitte le groupe, trop à l'écart, et dont la personnalité commence à ennuyer les autres membres. Ainsi, à partir de là, il va commencer sa carrière solo. Il sera donc remplacé par Phil Collins, qui ne quittera plus ce poste de chanteur par la suite. Ce départ sera suivi, en 1977, de celui de Steve Hackett, et Genesis, initialement à 5, ne vont finir qu'à 3, avec des membres provisoires lors des concerts évidemment, et ce notamment à la batterie. Et si beaucoup de fanatiques du groupe mettent un peu sur un piédestal l'ère Peter Gabriel, c'est malgré tout avec Phil Collins en tant que chanteur que le groupe va véritablement exploser, enchaînant les succès tels que Mama, Turning On Again, ou encore Invisible Touch, dont la l'album éponyme est considéré comme le meilleur du groupe. Et parallèlement à ses succès avec son groupe, bah Phil Collins il va devenir tout simplement un des artistes les plus bankable des années 80. Avec ses albums But Seriously ou encore Not Jacket Required, deux bangers à mon goût, hein, qui l'amèneront par la suite à obtenir un Oscar pour You'll Be In My Heart. Musique de Tarzan. On peut le dire, Genesis c'est très loin de faire l'unanimité. Entre ceux qui considèrent que c'est une des formations les plus importantes de l'histoire du rock et ceux qui pensent qu'il s'agit du groupe démodé par excellence, c'est assez compliqué de voir ce que représente réellement l'influence de Genesis. Cependant, on est obligé de reconnaître que Genesis c'est un des groupes les plus créatifs de l'histoire du rock, pionnier du genre progressif, c'est-à-dire qu'on va quelque peu s'éloigner de la musique populaire pour aller vers de la musique beaucoup plus sophistiquée, parfois à la frontière des ballades médiévales, et on l'a dit, des morceaux de plus de 20 minutes parfois. Donc en gros, si on doit conclure, c'est pas un groupe qui fait absolument l'unanimité, mais globalement, ils ont fait ce qu'ils avaient envie, sans trop se poser de questions. Maintenant, comment ils ont fini ? Alors, ils se sont séparés en 1999, mais ont refait une tournée, le Turning On Again Tour, qui donnera lieu à un album, Live Over Europe 2007, un chef-d'œuvre. Mais après ça, on ne croit plus trop en une nouvelle réunion, puisque l'état de santé de Phil Collins ne lui permet plus de jouer de la batterie. Et il mettra d'ailleurs sa carrière personnelle entre parenthèses après 2010. Cependant, et contre toute attente, une dernière tournée verra le jour en 2021, qui a été donc repoussée à cause du Covid, qui s'arrêtera donc en mars 2022, soit il y a globalement 2 ans. Dans cette tournée, on voit Phil Collins chanter, assis, faible, confirmant donc l'aggravation de son état de santé. C'était tout pour moi pour ce petit retour sur l'histoire de Genesis. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie d'aller écouter ce qu'ils font. C'était PA pour le podcast, à la prochaine.
Bonjour à tous, c'est Jolan, et pour bien finir ce podcast, je vais vous faire une chronique sur l'école. Alors, de quoi on va parler ? Dans cette chronique, on va retracer le fonctionnement et l'appréhension de la maternelle jusqu'aux études sup, en passant bien entendu par la primaire, le collège et le lycée. C'est un petit retour en enfance que nous allons faire aujourd'hui, et je vais vous rappeler des souvenirs que vous avez peut-être oubliés. Tout commence donc avec la maternelle, et plus précisément la petite section, où on avait 3-4 ans, 4-5 ans en moyenne section, et 5-6 ans en grande section. Je pense que la plupart d'entre vous ne se rappellent pas de à quoi ressemble une journée de maternelle. Le but de la maternelle, ça va surtout être de se faire des amis, on va faire beaucoup d'activités manuelles, on va jouer toute la journée, et je sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait même des siestes. Des siestes où on n'avait pas envie d'y aller justement, parce qu'on voulait rester pour profiter avec nos amis. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent sont en études supérieures, avouez-le. Qu'est-ce qu'on donnerait pas pour une sieste en milieu de journée ? En maternelle, c'était l'âge où on était encore innocent, où on se souciait de rien. On n'avait aucun problème à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous en parle, je trouve ça intéressant de voir à quel point on a évolué, de voir à quel point on a changé entre la maternelle et aujourd'hui. Suite à l'école maternelle, nous avons l'école primaire, où là, les souvenirs commencent à être de plus en plus nombreux. L'école primaire s'effectue de 6 à 11 ans, en passant par le CP, le CE1, le CE2, le CM1 et le CM2. La primaire, c'est la période où on commence à apprendre des trucs. On va commencer à avoir des vrais cours, on va apprendre l'histoire, les maths, l'anglais, mais ça reste tout de même un endroit où on joue beaucoup, où on a beaucoup d'activités, où on a beaucoup de temps à passer avec nos amis, et où les profs sont en général assez indulgents. Personnellement, durant ma primaire, chaque fin d'année, on faisait des jeux de société, on pouvait ramener des gâteaux. Pour les anniversaires aussi, on pouvait ramener des gâteaux, chose impensable au collège et au lycée. On finissait les cours à 16h. C'est vraiment la période où on va profiter de notre petite enfance, puisqu'on commence à être grand, à pouvoir faire des choses de grand, comme du roller, du sport, des activités un peu plus manuelles. Et c'est le moment où on va se faire nos premiers vrais amis. Cependant, la première, ce sont aussi des choses un peu moins cool, comme par exemple les cahiers de vacances. Les cahiers de vacances, quel enfer. On se retrouve en été, on a envie d'aller se baigner, on a envie de sortir jouer avec nos potes. Et bah non, il y a des maths à faire dans ton cahier de vacances. Autre souci un peu plus sérieux cette fois, c'est qu'en primaire, il y a énormément d'harcèlement. Tout simplement parce que les enfants ne se rendent pas compte de leurs actions, d'à quel point ça peut blesser les autres. Et c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser et d'en parler à nos générations futures pour protéger nos enfants et leur permettre à tous d'évoluer dans un endroit sain. Et après la primaire, nous avons le collège. Le collège, pour beaucoup, c'est la pire période de notre éducation. Tout simplement parce qu'on y retrouve l'immaturité des élèves, une charge de travail plus importante, et très peu de liberté alors qu'on arrive à un âge où on a envie d'avoir de la liberté. De plus, on a le brevet. Alors même si le brevet n'est pas forcément la chose la plus compliquée, elle va le devenir encore plus dur. Le brevet devient plus dur cette année pour les élèves de 3e. Et puis pour la génération des 2005, 2006, 2007, etc., ça a été la période Covid, où par exemple nous, les 2005, on s'est retrouvés à ne pas passer notre brevet, ce qui est pas si cool que ça, et où on s'est retrouvés par la suite à devoir porter les masques en cours. Mais ça, c'est un événement à part. Mais bon, une fois qu'on avait passé le brevet, on arrivait au lycée. Et le lycée, ça, c'était cool. On avait énormément de liberté, puisqu'on pouvait sortir quand on voulait, du moins dans la plupart des lycées. Les cours étaient certes plus durs, mais ils étaient intéressants. On avait un peu plus de choix sur nos cours. Alors ok, on a le bac et le bac de français. On a les bacs de spé, et c'est pour ça que je ne pense pas faire polémique en affirmant que la seconde est la meilleure année de lycée, voire même la meilleure année toutes études confondues. Puisque c'est une année où nous n'avons pas d'épreuves, où les cours restent relativement simples, comparés à la première et à la terminale, où on avait des horaires plus ou moins cool, etc. Et après le bac, on arrive au grand, au puissant, les études supérieures. Et nous y voilà, la vie d'adulte, la liberté, parfois un peu trop de liberté, où on fait ce qu'on veut, où on fait ce qui nous plaît, ou alors on se réoriente vers ce qui nous plaît. On a le choix de faire ce qu'on veut, de continuer les études ou d'arrêter pour travailler, où on peut s'investir dans différentes associations, où on va faire des rencontres, les soirées étudiantes. Ça vend du rêve, franchement ça vend du rêve. Cependant, bien entendu, ça reste compliqué, on a beaucoup de travail, de nombreux étudiants doivent travailler à côté, puisqu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, puisqu'il faut parfois payer un appartement, la nourriture, abonnement de téléphone, etc. Donc ce n'est pas tout le temps une période facile. Mais ça reste un environnement assez cool, où on peut plus facilement se sentir à notre place. Après, tout dépend des études que l'on fait. La licence nous permet d'avoir plus de temps libre, tandis qu'un BUT nous permettra d'avoir plus de connaissances. Ou du moins plus d'expérience. Un BTS, c'est très court, mais ça nous donne plus d'expérience dans un métier donné. Le CAP également. Et après, tout dépend aussi de la longueur des études. On va pas expérimenter nos études de la même manière si on fait une licence plutôt qu'un doctorat. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite chronique. Merci de m'avoir écouté.